chapitre 5, versets 5 à 10. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, si vous voulez, on va demander la bénédiction du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous nous apprêtons à étudier un bref passage de l'Épître aux Hébreux qui est si profonde, si riche en enseignements concernant la sacrificature de Christ, son office de sacrificateur. Alors, Seigneur, on te prie d'être avec nous, que ton esprit nous ouvre l'intelligence à la compréhension du texte et aussi, Seigneur, à son application, parce que chaque fois que tu nous enseignes ta parole, tu as toujours des choses à nous enseigner et le but est de que nous changions des choses dans nos vies, que nous devenions meilleurs, que nous ressemblions davantage à Christ et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Christ surpasse Aaron infiniment » parce que Aaron, c'était l'ombre des choses à venir et Christ accomplissait absolument tous les aspects de la sacrificature d'Aaron et infiniment plus. Et là, on va voir qu'il est en train d'introduire une nouvelle notion, de comparer Christ avec une nouvelle personne qui est Melchisédek. Et on va voir que dans le livre des Hébreux, à partir du chapitre, surtout à partir du chapitre 5, aller jusqu'au chapitre 10, si quelqu'un veut étudier l'office de souverain sacrificateur de Christ, il ne peut pas ignorer cet aspect-là. C'est l'office de sacrificateur de Christ est développé très richement dans Hébreux. Alors, c'est très important pour nous. On sait que Christ avait trois offices. Roi, sacrificateur et aussi prophète. On a vu que dans le chapitre 1 et 2, dans les quatre premiers chapitres, on avait surtout mis l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Chapitre 2, l'humanité de Jésus-Christ. Alors, on avait parlé qu'il était Dieu. Donc, automatiquement, ça le rendait, par la chose même, supérieur à tous les prophètes qui l'avaient précédé. Il était le prophète avec un L majuscule puis un P majuscule. Il n'était pas un prophète comme ceux de l'Ancien Testament. C'était Dieu qui s'était incarné, qui parlait à travers la chair d'un homme. Et c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche à faire passer à ses concitoyens, parce que beaucoup de personnes croient que c'est Paul qui écrit Hébreux. Alors, les Juifs qui se convertissaient au christianisme, on en avait déjà parlé, mais on va faire une révision à chaque semaine, parce que moi, je trouve que l'étude d'un livre, ça me fait penser un peu à une grande mosaïque, une grande peinture. Alors, on commence à faire un petit coin, on peinture, on fait un autre petit coin, on peinture, on fait un autre petit coin, on peinture, et c'est une grosse image. Mais quand on est dans notre petit coin, qu'on étudie juste une partie de la peinture, on ne voit pas l'ensemble. Alors, à un moment donné, si tu veux voir où tu es rendu dans ta peinture, à un moment donné, il faut que tu prennes du recul. Faut que tu ailles voir qu'est-ce qui a été dit avant, de manière à ce que tu puisses faire une idée du fil conducteur. Parce que une bonne façon de lire Hébreux, ce serait de partir du premier verset d'Hébreux puis se rendre jusqu'à la fin. Mais quand on l'étudie, on ne peut pas prendre tout l'ensemble, c'est trop profond, il y a trop de choses à dire, et il faut y prendre par petits morceaux. Mais c'est nécessaire de prendre du recul et de regarder qu'est-ce que l'auteur a cherché à démontrer aux Juifs jusqu'ici. Parce que si on ne fait pas ça, qu'on fait juste étudier un petit passage, puis qu'on ne fait pas le recul, à un moment donné, on ne voit pas la pensée d'ensemble de l'Épître, et c'est très nécessaire de le faire. Alors, les Juifs, on avait vu dans les semaines précédentes, qu'ils se convertissaient au christianisme. Alors, ils étaient dans le judaïsme, et il y avait le système sacrificiel avec des animaux, puis tout ça. Mais toutes ces choses-là étaient des choses qui étaient des symboles qui pointaient vers la venue future de Jésus-Christ. Alors, quand ils se convertissaient, pour eux, c'était une expérience extraordinaire dans un sens, parce que ils comprenaient que la personne qui était venue, qui avait été crucifiée, qui était ressuscité, c'était le Christ qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Cependant, la pression qu'ils recevaient de leur père, de l'ensemble des autres Juifs du judaïsme, de l'État d'Israël, leur faisait la vie dure, en ce sens qu'ils les excluaient de la synagogue. Et être exclu de la synagogue, à l'époque, ça voulait dire que tu n'avais pas de relation sociale, pas de relation économique, tu étais rejeté, considéré comme un enfant de Satan, parce que les Juifs de l'époque considéraient que les Juifs qui se convertissaient au christianisme étaient des enfants de Satan. Alors, ça leur mettait une pression sociale énorme et ils étaient tentés, ils avaient des questionnements face au Messie, parce que la notion du Messie, c'était un Messie conquérant militaire, qui rentrerait dans Israël par la force et qui jetterait l'armée romaine dehors, qui reprendrait le contrôle politique de leur pays. Christ, quand il est venu, c'était une libération qu'il faisait, mais c'était pas une libération politique, c'était pas une libération de leur corps, c'était une libération de leur âme. Alors, il fallait qu'éventuellement qu'ils comprennent ça, et c'est ce qu'il va chercher à faire en expliquant un peu, dire, retournez pas dans le système du judaïsme, parce que ce système-là, il est terminé, et tous les personnages qu'on a vus, là, Moïse, Aaron, Josué, c'était tous des personnages qui pointaient vers Christ, qui présentaient un aspect ou un autre de la personne de Christ et de son œuvre. Alors, il était dans des conditions économiques, sociales et religieuses en se faisant exclure de la synagogue qui étaient assez terribles. Leur adhésion au christianisme était considérée comme étant satanique. L'idée qu'ils s'étaient fait du Messie, d'un militaire conquérant et libérateur, ne s'accordait pas avec la crucifixion. Alors imaginez un Juif qui a lu la Bible dans l'Ancien Testament, qui ne comprenait pas que Christ devait souffrir, puis qui se faisait une idée, mais c'était leur propre idée, c'était pas l'idée des Écritures. Dans Isaïe 53, c'est clair qu'on parle du Messie, c'est clair qu'on parle d'un Messie souffrant. Mais eux, on aurait dit que cette idée-là, ils n'arrivaient pas à l'intégrer. Un peu comme quand Jésus essayait d'expliquer à ses disciples qu'il était pour être bafoué, rejeté, crucifié. Ils ne comprenaient pas, parce que c'était tellement ancré dans leur esprit la conception qu'il s'était fait du Messie qu'ils rejetaient ça, ils ne comprenaient pas. Alors ici, on voit la même chose. L'ensemble de ceux qui se sont convertis à Jésus, ils ont vu un homme venir sur la terre, ils n'ont pas compris, ça les a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de comprendre qu'il était l'homme-Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, mais avec un trait d'union, il avait les deux natures dans une seule personne. Ça les a pris beaucoup de temps avant d'intégrer cette notion-là. Alors, les Juifs nouvellement convertis se devaient d'abandonner le judaïsme qui avait comme centre le temple, et le système sacrificiel pratiqué par leur père depuis plus de 1500 ans. Imaginez-vous sortir d'un système dans lequel tu es élevé de père en fils pendant 1500 ans, que du jour au lendemain, tu dis ça, là, c'est plus bon, parce que Christ est venu, puis tout ça, c'est fini. Faut se replacer un peu dans leur peau, là, pour comprendre un peu, là. Alors, ils étaient extrêmement perplexes et tentés d'abandonner le christianisme. Alors, c'est pour ça que Paul, moi je pense que c'est Paul qui écrit Hébreu, Paul est venu leur expliquer, ne faites pas ça, il faut que je vous explique des choses avant que vous fassiez ce geste irréparable. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va chercher à leur démontrer que Christ était réellement le Messie attendu et que celui-ci était infiniment supérieur au judaïsme. Alors, on va procéder à une brève révision des chapitres, très brève, parce qu'on ne rentrera pas dans les détails des chapitres précédents, mais ça va nous donner une idée de où l'auteur s'en va tout seul. Alors, dans le chapitre 1, L'auteur a voulu identifier et exalter la personne de Christ en leur rappelant que celui-ci avait la pleine nature divine, qu'il était le créateur et le sustentateur de l'univers. Il faut s'arrêter un peu de... Il est en train de leur dire, Jésus, celui qui est venu, que vous avez vu comme étant simplement un homme, c'était beaucoup plus que ça. Il avait créé l'univers au début. Le créateur, le sustentateur, c'est celui qui soutient toute la création par sa parole puissante. Imaginez-vous, il ne dit pas par la force de toute sa puissance, juste sa parole. Sa parole suffit pour maintenir tout ce qui a été créé à l'existence. Si le Seigneur arrêtait de penser à nous, un instant, on s'écroulerait tout, on tomberait tout dans le vide. Il soutient toute la création. Alors, il voulait rappeler ces choses-là. Il leur rappelait également qu'il était le reflet de la gloire divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait absolument tous les attributs de Dieu le Père, les mêmes choses que lui. L'empreinte de sa personne, c'est comme si tu fais une empreinte, c'est fidèle à une empreinte, il était exactement la même chose que Dieu le Père. Et il voulait leur rappeler aussi qu'il contrôlait la providence. Qu'est-ce qu'on entend par la providence? La providence, c'est tout ce qui se déroule à tous les jours autour de nous, peu importe les événements. Ce qui se passe à la terre, c'est la providence. C'est Dieu qui est en train de dérouler le plan qu'il avait créé de toute éternité et qu'il le déroule autant dans nos vies personnelles, ce plan-là existe, que dans l'ensemble de l'univers. Alors, il voulait leur rappeler qu'il était la personne qui contrôlait la providence et qu'il avait absolument tout l'honneur et toute l'autorité divine. Imaginez-vous, dans le chapitre 1, il leur a démontré ça. Alors, il leur a rappelé que la personne de Jésus-Christ n'était pas une personne que tu percevais comme un homme. C'est sûr qu'eux le voyaient. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand Jésus est venu sur la terre, les Juifs? Ils ont vu un homme. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez jusqu'à quel point dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que les apôtres, ceux qui ont vécu 3 ans avec lui, ça lui a pris tout le petit change. Et même après sa crucifixion, il n'avait pas compris encore. Ça a été après la résurrection, ça a été après, pendant les 50 jours, il était présent sur la terre, où là, il lui a parlé plus. Et après ça, ils sont devenus pleins de hardiesse à annoncer l'Évangile. Mais ça lui a pris beaucoup de temps à comprendre. Alors, il faut se mettre dans la peau des Juifs de l'époque. Alors, bien sûr, cela le rendait, Jésus-Christ, infiniment supérieur à tous les prophètes de l'Ancien Testament et à tous les anges qui ne sont que des serviteurs. Cette démonstration est suivie d'un des 5 avertissements solennels placés à des endroits stratégiques de l'Épître. Ils ont tous un lien avec les rapports que nous avons avec la parole de Dieu. Quand vous allez, si vous étudiez le plan de l'Épître aux Hébreux, vous allez voir que à l'intérieur de l'Épître, il y a 5 endroits où le Seigneur donne des avertissements solennels au peuple juif. Et ce sont tous des avertissements qu'il leur donne, qui ont un rapport avec ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Eux, mais par extension, nous aussi, là. Parce que l'hébreu n'a pas été donné juste pour les Hébreux. Parce que la preuve, on étudie encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des applications pour nous. Alors, le premier avertissement, il les avait donné dans le chapitre 2, versets 1 à 4, et c'était de ne pas s'y attacher. Le problème, c'est que si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on va avoir des problèmes énormes. Alors, il est en train... Mais c'est à un endroit précis dans le chapitre 2. Après leur avoir démontré la déité ou la divinité de Jésus-Christ, qu'il vient introduire cette idée-là, faites attention, mes amis juifs, attachez-vous à la parole. Parce que si vous ne vous attachez pas à la parole, ça va avoir des conséquences très graves dans votre vie. Le deuxième avertissement était celle de ne pas la croire. On peut avoir la parole de Dieu, on peut la lire à tous les jours, mais si on n'obéit pas, ça veut dire qu'on ne la croit pas. Quand Dieu nous donne un commandement, il faut obéir, parce que si on n'obéit pas, c'est la preuve, la démonstration qu'on ne croit pas ce qu'il nous dit. Et souvenez-vous qu'il a placé ça, cet avertissement-là, au chapitre 3, versets 17 à 19. C'était le moment où il rappelait la supériorité de Christ sur la personne de Josué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans, ils n'ont pas entré dans le repos. Pourquoi? Et le problème qui avait été identifié quand on étudiait cette section-là, c'était quoi? L'incrédulité. Le même danger nous guette encore aujourd'hui. La troisième, c'était au chapitre 5, versets 11 à 6-12. Ça va être la semaine prochaine qu'on va commencer à étudier ça. Le troisième avertissement de l'Épître aux Hébreux. Et c'est quoi l'avertissement, le troisième avertissement de l'Épître aux Hébreux? C'est de ne pas l'étudier. Parce que vous allez voir que quand il va développer son idée la semaine, dans les semaines prochaines qu'on va étudier cette section-là, les Hébreux, il est en train de leur dire, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants au lait. Puis depuis le temps que vous êtes convertis, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des personnes capables d'enseigner et je suis obligé de vous traiter comme des bébés. C'était pas très flatteur ce qu'il leur disait là. C'est pas très flatteur pour nous non plus, parce que ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Quand on n'étudie pas la parole de Dieu, notre connaissance de la parole est très superficielle et ça fait en sorte que ça peut avoir des conséquences très graves pour nos vies. Ne pas l'étudier, c'est causé par quel péché? La paresse. On est tous paresseux, sans exception, certains plus que d'autres. Dans tous les péchés, il y en a toujours certains plus que d'autres. Mais la paresse. Après ça, ça va aller au chapitre 10 avant d'avoir le quatrième avertissement. Le quatrième avertissement, ça va être « ne pas y obéir ». Et le cinquième, donc « ne pas y obéir », le péché, c'est l'ignorance volontaire. Tu lis, « Seigneur t'a dit quelque chose », pas grave, on fait d'autres choses, on le fait pas. Et le cinquième, c'était « de ne pas l'écouter ». Et quel péché est rattaché à ne pas écouter la parole de Dieu? Le refus d'entendre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de reprendre quelqu'un. Il y a un refus, des fois, il y a un refus d'entendre ce que tu veux leur dire. Et ça, on trouve tous faire attention. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Le refus d'entendre, c'est un grave péché. Alors, le premier avertissement avait apparu après que la déité ou la divinité de Jésus-Christ ait été démontrée et que le fait qu'il soit le roi parfait avait été établi. On passe au chapitre 2. Le problème, c'est que les Juifs avaient vu Jésus arriver et pendant un bout de temps, quand il est rentré en l'entrée triomphale à Jérusalem, « Ah, vive le roi! Vive le roi! » Deux, trois jours après, ils l'ont crucifié. Alors, leur roi, c'était un libérateur qu'ils voulaient avoir. Quand ils ont vu que ce n'était pas le libérateur qu'ils attendaient, « Crucifie-le! » Ceux qui ont crié. Dans le deuxième chapitre, le problème était relié à l'humanité de Jésus-Christ, puisqu'il attendait un Messie libérateur, conquérant, militaire, et que celui-ci n'avait pas rencontré leurs critères. Ils ont dit, notre libérateur, c'est quelqu'un qu'on a mis sur une croix, qu'on l'a crucifié. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils connaissaient leurs Écritures et que Dieu disait que quelqu'un qui était cloué à une croix était maudit. Alors, ils se disaient, comment notre Messie est venu sur la terre, puis on l'a mis sur une croix, puis s'il était vraiment Dieu, pourquoi qu'il s'est laissé faire? Problème, là. Il y avait un problème de compréhension. Alors, le deuxième chapitre avait pour but de démontrer que malgré l'humanité de Jésus-Christ, que cette humanité-là était nécessaire pour accomplir son ministère de souverain sacrificateur. On va voir plutôt tantôt pourquoi. Parce qu'à partir du chapitre 5, on développe l'idée du souverain sacrificateur. Quel est le rôle du souverain sacrificateur? À la fois dans l'Ancien et à la fois dans le Nouveau, puis quand tu compares les deux, qu'est-ce qu'il y a de similaire puis qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est ça qu'on va étudier tantôt. Alors, dans le chapitre 2, l'auteur va expliquer aux Juifs convertis à Christ que le fait de son incarnation et de sa crucifixion ne le dépouillait pas de sa divinité et ne le rendait pas inférieur aux anges. Il leur démontre que les souffrances de Christ n'étaient pas un handicap ni une infériorité, mais qu'elles étaient absolument nécessaires pour la rédemption des élus. Le chapitre 2 va démontrer l'absolue nécessité de la parfaite humanité de Christ. Voyez-vous, chapitre 1, divinité. Chapitre 2, humanité. Pour qu'ils voient à un moment donné que c'était nécessaire les deux. Dans le chapitre 3, L'auteur va démontrer l'infinie supériorité de Christ sur la personne de Moïse. Il ne faut pas oublier que pour les Juifs, Moïse, c'était le personnage de leur histoire, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, celui qui les avait fait sortir des griffes de Pharaon. Et pour eux, c'était un personnage extrêmement important. Alors, ils se font rappeler le très grave problème de leur père lors de la sortie d'Égypte, qui était l'incrédulité. Ce problème de cœur mauvais et incrédule leur valut de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans et d'y mourir. Ils entendirent ce terrible jugement de Dieu. « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Le deuxième avertissement vient là, après ça. Ils se trouvent placés ici, « Ceux qui se disent de Dieu se doivent d'obéir à Dieu, sinon ils n'entreront pas dans le repos de Christ. » Avoir une foi sans obéissance, ce n'est pas avoir la foi biblique. On a la parole de Dieu qui nous dit comment nous comporter en toutes choses, en toutes circonstances. Et si quelqu'un ferait uniquement la lire, il pourrait y avoir un universitaire qui pourrait arriver ici, connaître la Bible 10 fois mieux que moi. Aucune obéissance, ça vaut zéro. Moi, je pourrais la connaître beaucoup moins que lui, mais si j'obéis à ce que je connais, je lui suis grandement supérieur. C'est pas une question de connaissance, là. Juste avoir des connaissances intellectuelles dans la tête, puis que tu n'appliques rien dans ton quotidien. Dans le chapitre 4, l'auteur va démontrer l'infinie supériorité de Christ sur Josué et sur le souverain sacrificateur Aaron et sa descendance. C'était des personnages importants aussi, Josué. On se souvient que Moïse est mort dans le désert. Et après, Josué a pris la suite et lui a opéré la conquête. Alors, c'est sûr que pour les Juifs, c'est un personnage très important, mais on a vu dans notre étude des chapitres précédents que Christ était infiniment supérieur parce que la libération et la conquête que Josué apportait, c'était une libération terrestre temporelle. Tandis que la libération de Christ est une libération éternelle qui a un rapport avec le salut de ton âme. Et il va commencer à vouloir démontrer l'infinie supériorité de la souveraine, du fait que Jésus soit le souverain sacrificateur. Il va démontrer qu'il est infiniment supérieur à Aaron. Aaron était le premier, là. Parce qu'au moment que Christ est venu, c'était plus Aaron qui était le souverain sacrificateur. Ça faisait 1500 ans de ça. Mais Dieu avait dit que fallait que tu sois de la tribu de Lévi, fallait que tu sois un fils d'Aaron pour que tu puisses profiter de la sacrificature. Et à l'arrivée de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament existait encore. Quand vous lisez votre Nouveau Testament, vous le voyez qu'il existait encore. Alors, à partir du chapitre 5, jusqu'au verset 39 du chapitre 10, alors c'est une grande portion du chapitre, de l'Épître, l'idée principale qui va être développée, c'est les différentes facettes de la souverain, du fait que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui enlève, qui dit que l'ancien système est terminé et que lui, la façon dont il complète son ministère de souverain sacrificateur est infiniment supérieur. Que je mesure mes mots, là. Infiniment supérieur. Parce que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament rentrait dans le Saint des Saints une fois par année et l'efficacité de que les péchés soient couverts, ça durait quoi? Un an. Quand Christ est rentré dans le ciel, le fait qu'il soit souverain sacrificateur, ça nous assurait, comme on va voir dans le verset un petit peu plus tard, un salut éternel. Mais où est la différence? Un an éternel. Et alors, quand on parle de c'est infiniment supérieur, il n'y a pas sorti de là. Alors, pour établir l'incommensurable supériorité du grand souverain sacrificateur qu'est Christ, il va devoir utiliser deux personnages. Et j'avoue que le fait d'avoir revisé, la dernière fois que j'ai prêché sur Hébreu, m'a grandement aidé parce que j'ai un petit peu affilé. Parce que, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient en bas, quand on étudiait le souverain sacrificateur de Christ, qu'est-ce que ça nous disait, ça comprenait? Il y a une partie terrestre qui est faite sur la terre, donc subir le châtiment à notre place, accomplir la loi à notre place, ça s'est fait sur la terre. Mais à son ascension, il est monté au ciel. Et qu'est-ce que Christ fait au ciel? Il y a deux parties à le sacrificateur de Jésus-Christ, sa partie terrestre, sa partie céleste. Pourquoi il introduit le personnage de Melchisédek? C'est pour montrer que Christ rencontrait tous les prérequis de la sacrificature d'Aaron et infiniment plus. Puis après qu'il va avoir terminé, s'il va vouloir développer l'idée du souverain sacrificateur Jésus-Christ, il va introduire le personnage de Melchisédek, et on n'entrera pas dans les détails de ça ce matin, c'est tout le chapitre 7 qui parle de ça. Mais c'est juste pour qu'on va commencer un petit peu à voir où qu'il veut en venir. Parce que pour expliquer pleinement l'office de souverain sacrificateur de Christ, il fallait les deux personnages. Parce que avec Aaron, certaines choses sont accomplies et plus, mais c'est pas suffisant. Ça prend un autre personnage qui est Melchisédek. On va voir les caractéristiques que ce personnage-là avait pour parler de l'aspect céleste de la sacrificature de Jésus-Christ. Alors, il va utiliser Aaron pour démontrer que Christ rencontre parfaitement les cinq prérequis du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, pour ensuite décrire comment Christ les surpasse tous de façon infinie. Si on vous poserait la question un matin, c'est à quoi les cinq prérequis d'Aaron? Est-ce qu'on s'en souviendrait? On les étudiait la semaine passée. Et premièrement, il se devait d'être un homme. Un ange n'aurait pas pu faire le travail de la rédemption. Il fallait qu'il soit un homme, parce que ça disait dans le chapitre 5, verset 1, qu'il se devait d'être un homme parmi les hommes pour servir les hommes. Deuxième chose qu'il se devait d'être, il se devait d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. Quand il entrait, qui entrait au-delà du rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, c'était pour plaider pour nous. Plaider pour que Dieu ne nous juge pas pour nos péchés. Il entrait là avec du parfum, qui était une image, et il entrait avec du sang, et qu'il répandait sur le propitiatoire. Alors, c'est bien sûr que ceux qui n'ont pas tout suivi notre série qu'on a faite sur le tabernacle, des fois, ça peut être un petit peu difficile à saisir, mais ceux qui étaient là devraient faire des liens. La troisième chose, il se devait d'être sympathisant pour la misère des hommes. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, oui, il pouvait comprendre les misères des autres parce qu'il était, il avait les mêmes misères. Étant un humain, étant un pécheur, il était capable de comprendre d'autres pécheurs. Parce qu'il faut que tu sois pécheur pour être capable de comprendre un pécheur jusqu'à un certain point. Mais Christ, on a vu dans Hébreux 4.15, qu'on a passé deux semaines sur ce passage-là, que Jésus est infiniment supérieur à Aaron, dans le sens que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, parfois, il n'arrivait pas à pleinement compatir avec les misères et les péchés de ses semblables, parce qu'il y avait des manquements. On a vu la semaine dernière Anne qui voulait avoir un enfant, elle répandait son cœur devant l'Éternel, et l'autre, il arrive à côté et il dit, coudonc, tu devrais retourner prendre, tu es en train de cuver ton vin, t'es-tu saoul, là? Alors on voit que sa capacité de sympathie était, à cause de son péché, jusqu'à un certain point limitée. Alors que Christ, sa capacité de sympathie, elle n'est jamais en deçà ni au-delà, elle est toujours pleine et parfaite. Alors, c'est bien important de saisir ça. Il se devait aussi d'offrir des offrandes et des sacrifices pour les péchés du peuple. Et la différence avec Christ, il se devait d'offrir pour les péchés du peuple et pour les siens qu'on a vus dans la semaine passée. Donc, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il offrait des sacrifices, il offrait des offrandes, mais c'était pour les péchés du peuple, mais ça incluait les siens. Quelle est la différence avec Jésus-Christ? La parole nous dit que Jésus-Christ n'avait pas de péché. Et autre chose qu'il se devait, il se devait d'avoir été appelé de Dieu. Quelqu'un dans l'Ancien Testament ne pouvait pas arriver et dire, bon, ben là, à partir de matin, là, c'est moi qui est le souverain sacrificateur. Ça ne marchait pas comme ça. Il fallait que tu sois de la tribu de Lévi, il fallait que tu sois appelé de Dieu. Il fallait que tu sois un fils, soit de la descendance d'Aaron. Imaginez-vous la descendance d'Aaron. Pendant 1500 ans, là, les Juifs prenaient un soin jaloux de garder un registre généalogique de manière à s'assurer que le souverain sacrificateur était vraiment le fils de, 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 jusqu'à Jésus-Christ. Et on va voir pourquoi il a introduit la notion de Melchisédek, parce que la parole nous dit que lui, il était sans registre généalogique. On va rentrer plus en détail là-dedans quand on va arriver là. Alors voici, on va faire un tableau, puis d'un côté, on va mettre ce que Christ, est-ce qu'il rencontre les prérequis qu'Aaron devait avoir, et l'autre côté, on va regarder de quelle façon il les dépasse infiniment. Alors, comment il les remplit? Est-ce que Christ était parfaitement homme? Est-ce qu'il était un homme? Alors, il remplissait la première condition. La deuxième, comment il les dépasse? C'est que Aaron était un homme, point final. Christ était homme, trait d'union, Dieu avec un D majuscule. Voyez-vous la différence? C'est ce qui le rendait infiniment supérieur. Deuxième point, est-ce que Christ était le médiateur entre Dieu et les hommes? Dans 1 Timothée 2, chapitre 5, verset 5, ça nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Le médiateur, il est rendu, Jésus-Christ, il est le médiateur, mais il est le médiateur céleste, immortel et éternel. Voyez-vous, Aaron et toute sa descendance, il faisait un certain temps dans le ministère, dans le test, entre 20 et 50 ans. À 50 ans, il fallait que tu te retires. Mais c'était pas long le ministère. Christ, lui, son ministère, il est supérieur à Aaron en ce fait qu'il est au ciel et il continue d'exercer son ministère. Donc, c'est un ministère qui est céleste, pas juste terrestre, qui est immortel, parce que lui, Christ, il est mort une fois sur la croix, mais après, c'est fini. Là. Il n'a pas d'autre sacrificateur après lui. C'est intransmissible, son sacerdoce à lui, et éternel. Troisième prérequis, il se devait d'être compatissant aux faiblesses des hommes. Dans Hébreux 4:15, ça dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Voyez-vous la différence avec Aaron? C'est que oui, il avait une certaine compassion pour ses frères et ses sœurs pécheurs, mais il était lui-même pécheur. Tandis que ici, quand on voit de quelle façon c'est infiniment supérieur, c'est que Christ, lui, n'a jamais péché. Jamais, de quelque façon que ce soit. Ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Aucune forme de péché, il n'a accompli. Aucun. Zéro. Et plus loin que ça, on parle d'impeccabilité en théologie. Impeccabilité, ça veut dire, non seulement il ne l'a pas fait, mais il était incapable d'en faire. Voyez-vous? Ça le rend infiniment supérieur. Quatrième chose, il se devait d'offrir des offrandes. Et Christ, qu'est-ce qu'il a offert? La Bible nous dit qu'il s'est offert lui-même. L'agneau parfait, sans péché, il s'est offert lui-même au Père, étant un sacrifice d'agréable odeur. Son offrande était absolument parfaite, sans péché et impeccable, d'une efficacité permanente, non pas seulement pour un an, procurant le salut éternel en ôtant le péché et en imputant la parfaite justice de Dieu aux élus. On va revenir là-dessus. C'est important de voir ici la question que Jésus ôte le péché, souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, couvrait le péché. Pas la même chose. Le Seigneur l'enlève complètement, tandis que dans le temps, c'était juste couvrir pour un an, et toujours couvrir pour un an, puis ça se renouvelait. Et cinquième prérequis que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament devait avoir, c'est d'avoir été appelé de Dieu pour exercer son ministère. Quand est-ce que Jésus a été souverainement appelé? C'est ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Son appel a été par décret divin dans l'éternité et le conseil de Dieu, et avec la différence de l'Ancien Testament, avec serment. Le Seigneur a dit tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et on va voir un peu plus, quand on va arriver dans le chapitre 7, on va un peu effleurer un peu l'idée de Melchisédek aujourd'hui, mais il faut attendre au chapitre 7 avant de vraiment développer plus en détail. Et là, quand on va arriver là, vous allez voir que l'Épître aux Hébreux, c'est une épître fantastique pour comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la question que lui aussi, Jésus-Christ, avait été pleinement appelé de Dieu par décret divin. Alors, les gens ne pouvaient pas dire, « Ah oui, mais regarde, Jésus, lui, il ne peut pas être souverain sacrificateur, il n'était même pas de la tribu de Lévi. » Pour un juif, ça répète un problème. Alors, il fallait que, pour être sacrificateur, il ait reçu l'autorité de Dieu le Père pour qu'il le soit. Alors, c'est un décret divin. Dans le verset 5, ça nous dit, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, qui? » De qui on parle quand on est dans ce verset-là? On parle de Dieu le Père, parce que celui qui lui a dit, « Tu es mon fils » avec un F majuscule, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Les décrets de Dieu sont les plans éternels par lesquels, avant la création du monde, Dieu décide de faire advenir ce qui doit arriver. Le texte ici nous enseigne que Christ ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais qu'il l'a reçu de Dieu le Père lui-même. Alors, l'objection que les Juifs auraient pu avoir, Jésus, il venait de la tribu de Juda, il venait pas de la tribu de Lévi, donc ça le disqualifiait comme souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Ce qui est en train de leur dire, mais n'oubliez pas que les Écritures dans l'Ancien Testament prophétisaient, disaient que Jésus avait été nommé souverain sacrificateur par Dieu le Père lui-même. Alors, ça l'enlevait leur objection. Alors, l'auteur se sert de deux passages des Saintes Écritures pour illustrer son affirmation. Il se sert d'abord de Psaume 2, verset 7. Ça dit, « Je publierai le décret. » L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voyez-vous, l'auteur ici, il cite deux passages dans les cinq versets. Il dit, mais il l'a tient de celui qui a dit. Alors ici, il fait une référence à l'Écriture. Et la référence dont il fait, c'est le psaume 2, verset 7. La première partie, là, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et après ça, il dit, comme il est dit encore ailleurs. Donc, il fait référence à un deuxième passage des Écritures qui parle de la même idée. Alors, le psaume 2, verset 7, ça dit, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce passage nous enseigne que le décret concernait une personne divine. Parce que quand il dit « tu es mon fils », il ne dit pas « tu es mon fils » avec un fils, un F minuscule. « Tu es mon fils » dans le sens que tu es une des trois personnes de la Trinité. Tu es Dieu lui-même et ce Dieu-là va descendre sur la terre, va s'incarner dans un homme et c'est cet homme-là qui va venir accomplir la rédemption, le rachat de nos péchés et tout ça. Alors, ça concernait une personne divine parce qu'il lui dit « tu es mon fils ». Dieu le Père confirmait la nature divine du grand souverain sacrificateur Jésus-Christ. Jésus-Christ serait pleinement Dieu avec tous les attributs et toute l'essence divine. Il était le Créateur, le Régisseur et le Sustentateur de toutes choses. Donc, ça concernait une personne divine, mais ça concernait aussi une mission divine. Parce que dans le verset 6, « Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Cette mission était d'accomplir l'office de grand souverain sacrificateur. Et on trouve ça dans quel passage? Psaume 110, verset 4, qui nous dit, « L'Éternel l'a juré. » Voyez-vous, l'entrée en matière pour que Jésus devienne le souverain sacrificateur, ça a été fait d'une façon différente de celui d'Aaron, parce que Aaron, ça se faisait automatiquement quand il rencontrait les qualifications. Mais ici, le Seigneur, pour qu'il vienne mettre son serment, ça voulait mettre du poids sur l'affirmation. L'Éternel l'a juré. Pourquoi l'Éternel aura besoin de jurer? Il ne dit jamais la vérité. Il dit jamais le mensonge. Jamais, 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 jamais. Mais s'il jure, c'est parce qu'il veut mettre du poids, de l'emphase sur ce qu'il est en train de dire. Et il ne s'en repentira pas, comme dit le passage. Tu es sacrificateur, il parle à son fils, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. On va rentrer un petit peu plus dans les détails dans le chapitre 7, mais on va commencer à effleurer un petit peu pourquoi il fait l'entrée ici, pourquoi il introduit le personnage de Melchisédek. Donc, Christ avait été nommé officiellement par Dieu le Père et avec serment. Cette mission serait de nature permanente et durable par le mot pour toujours. Cette mission avait été décrétée dans l'Alliance éternelle de grâce et était donc éternelle. Il nous faut remarquer que cette nomination était directement de Dieu et exclusive. Elle était marquée de la plus haute approbation et autorité divine. On va aller voir un peu où qu'il sort ce personnage-là, Melchisédek. Nous trouvons la mention de la personne de Melchisédek dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Genèse 14, versets 16 à 20. Alors, on se rappelle que c'était que il y avait des rois qui avaient attaqué, ils avaient ramassé les richesses et Abraham, avec 300 hommes, avait été rattaqué ces rois-là. Il les avait vaincus et après qu'il avait tout récupéré, il y avait un personnage qui s'était présenté comme étant le sacrificateur du Dieu Très-Haut. On va le lire dans le passage. Et on va voir que, quand on va comprendre le lien qu'il cherche à faire, c'est quelque chose de fantastique. Alors, ça dit dans le verset 16, « Il ramena toutes les richesses. » On parle d'Abraham qui est allé rechercher les richesses que les rois s'étaient accaparées. « Il ramena aussi Lot, son frère. » On se souvient que Lot, à cause du fait qu'il était dans une ville, il s'était fait ramasser lui-même avec ses biens. « Son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. » Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Voyez-vous, verset 18, Melchisédek, roi de Salem. Vois-tu, il y a quelque chose qui est introduit ici, une idée. Dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas être roi et sacrificateur en même temps. Ici, le personnage de Melchisédek, on apprend quelque chose de lui. Il était à la fois roi et sacrificateur. Alors qu'il y a quelques petites notions qui commencent à rentrer tranquillement. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Voyez-vous, c'était un sacrificateur, mais à la différence d'Aaron, lui emmenait des animaux qu'il égorgeait. Lui, il amène du vin puis du pain. Donc, ça vient parler on va le voir plus tard, de la partie céleste de Christ, parce que du pain et du vin, c'est quelque chose d'agréable pour l'homme, c'est plus une offrande qu'un sacrifice. On va faire la différence tantôt. Et ça dit, à la fin du verset 18, en parlant de Melchisédek, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dans le même passage, ça nous dit qu'il y avait deux choses qui concernaient. Il était à la fois roi et sacrificateur. On va voir aussi dans un autre passage que dans l'Ancien Testament, c'était absolument défendu que quelqu'un fasse le cumul des deux fonctions. Alors, verset 19, ça nous dit que ce personnage-là, Melchisédek, il a béni Abraham. Alors, quand on reçoit une bénédiction, c'est qui est le plus important? Celui qui la donne ou celui qui la reçoit? Celui qui la donne. Alors, celui qui la donne, c'était Melchisédek. Et il la donnait au plus grand personnage de l'histoire des Juifs, Abraham. Alors, ce qui est en train de leur faire prendre conscience, il était à la fois roi, il était à la fois sacrificateur. Et c'est lui qui bénissait l'inférieur. Donc, il était supérieur à Abraham. C'était pas de dire une petite chose aux Juifs que d'aller leur dire des affaires semblables. Dire que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, dire que Jésus-Christ est supérieur à Josué, dire que Jésus-Christ est supérieur à Abraham, c'était de dire des grosses choses. Mais il annonce, il va chercher il ne dit pas les choses sans écriture. Et il dit, verset 19, il bénit Abraham. Parce que Abraham, on se souvient qu'il n'avait pas encore reçu son nouveau nom de Abraham. Avant Abraham, il portait le nom de Abram. Il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Qu'est-ce qu'il est en train de rappeler à Abraham? La victoire que tu viens d'obtenir sur les rois ne dépend pas de ta force, mais dépend du Tout-Puissant qui t'a accordé la puissance, la force militaire, même si c'est rien que 300 personnes, même si tu serais battu contre 10 000. C'est Dieu, il voulait y faire prendre conscience que la victoire que Dieu t'a accordée, ça vient de lui, la source vient de lui. Et il dit, verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les ennemis, tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Encore là, la dîme, on la donne toujours à quelqu'un de supérieur. Nous, on paye la dîme, on la paye à qui? À l'Église, mais en fait, on la paye à Dieu. On la paye à quelqu'un de supérieur. Et encore ici, ça nous dit que Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Donc, Melchisédek était supérieur. On va développer un peu plus, faut pas trop... Sans faire, si on ne comprend pas trop jusqu'ici, là, mais on va développer. Alors, dans le chapitre 7, on va vraiment développer en détail plusieurs notions sur la personne de Melchisédek. Nous en reparlerons avec plus d'explications lorsque nous atteindrons cette partie de l'Épître. Cependant, nous mentionnerons ici quelques faits utiles à notre compréhension à ce stade-ci. Alors, comme Melchisédek, Christ unissait dans sa personne deux offices. Même lui, c'est trop. Celui de roi et celui de sacrificateur du Très-Haut. Genèse 14, 18. Mais, verset 18, ça nous dit, « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. » Puis au début du verset 18, ça nous dit qu'il était le roi de Salem. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'il était le roi de Jérusalem, ça vient de là. Alors, étant le roi de Jérusalem, ça pointait vers Christ. Hébreux, chapitre 7, verset 1, on va juste y aller un petit peu pour commencer à développer un peu l'idée de Melchisédek. Il dit, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. » Rappelons que dans l'Ancien Testament, Dieu défendait absolument le cumul des deux offices de roi et de sacrificateur. Allons dans 2 Chroniques, chapitre 26, versets 17 à 21. On va voir qu'est-ce que le Seigneur fait avec quelqu'un qui veut exercer les deux fonctions alors que le Seigneur défend ça. 2 Chroniques, chapitre 26, versets 17 à 21. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 24 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias. Rappelons-nous dans le contexte, c'est le roi Ozias, il était roi, qui a décidé, lui, un bonjour, « Bon, ben moi, je deviens souverain sacrificateur, puis je fais la job aussi. » Alors, on voit ici qu'il y a 24 sacrificateurs qui ont entré, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis on dit, ils s'opposaient à lui. Ils s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. À l'Ancien Testament, là, la lèpre, c'était la maladie. Tout le monde, quand il te voyait, criait « impur, tu ne peux pas t'approcher de personne ». Pourquoi le Seigneur a permis que le roi Ozias, la lèpre, lui arrive dans le front? Le front. C'est vraiment l'image de l'orgueil. On va te frapper par où tu vas pécher. Alors, il dit, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans sa maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Voyez-vous, il y a des notions qui sont importantes qu'on se rappelle du cumul des deux offices. Dans l'Ancien Testament, c'était défendu. Pourquoi Christ fait le cumul de trois offices? Parce qu'il en était digne. Deuxième chose qu'on se doit de se souvenir par rapport à Melchisédek, c'est que Christ avait une plus grande dignité qu'Aaron et ses successeurs, et même plus grande qu'Abraham lui-même, parce que Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut, et avait reçu une bénédiction de lui. On va tout revoir ça dans le chapitre 7. Troisièmement, ce qu'on a à savoir sur le personnage de Melchisédek, c'est que ni Melchisédek, ni Christ ne sont trouvés dans les tables généalogiques de la sacrificature juive. Tu ne pouvais pas trouver le nom de Jésus dans les registres généalogiques pour prouver ta descendance. Tu ne pouvais pas être souverain sacrificateur à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, si tu ne pouvais pas prouver que tu étais un descendant d'Aaron, fils d'eux. On n'en trouve pas sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Et lui, il a été nommé directement par Dieu. Et Melchisédek, quand on va arriver au chapitre 7, on va nous dire de lui que lui non plus, on ne pouvait pas trouver de registre généalogique de lui. Donc, on ne savait pas son commencement, on ne savait pas sa fin. On ne sait pas quand il est venu au monde, on ne sait pas quand il est mort. Qu'est-ce que les Écritures voulaient nous enseigner? On va le voir quand on va être rendu là. Moi, c'est pour vous tenir en haleine un peu, pour vous revenir. Quatrièmement, ni Melchisédek ni Christ ne donnent l'indication que leur sacrificature a eu une fin. La sacrificature de Christ est donc pour toujours. Nous nous devons de saisir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux doit utiliser deux types. On appelle des types, on va revenir un peu sur cette notion-là. Aaron et Melchisédek pour illustrer l'absolue et infinie supériorité du grand souverain sacrificateur qu'est le Christ Jésus-Christ. Christ est comparé à Aaron pour la partie terrestre de sa sacrificature et à Melchisédek pour sa partie céleste. On revient un petit peu, on l'a fait au cours des semaines passées, si jamais il y en a qui sont intéressés des fois à avoir les leçons, c'est bon parfois des fois de reviser ce qu'on a vu. On avait déjà mentionné c'était quoi un type et un antitype. Quand on étudie les Écritures, on voit que très souvent, les auteurs vont nous dire tel personnage, c'est un type de Christ, et Christ, c'est l'antitype. Maintenant, si on ne définit pas qu'est-ce que c'est un type, puis si on ne définit pas c'est quoi un antitype, bien, on dit c'est un type, mais ça veut dire quoi ce type? Alors, on va reviser un petit peu là-dessus, parce que dans le fond, l'idée, c'est que ce personnage-là, Aaron, et ce personnage-là, Melchisédek, étaient des types de l'antitype. L'antitype, c'est toujours l'accomplissement dans la personne de Christ. Alors, on va faire une définition brève, juste pour nous rappeler un peu, remettre ces choses-là en mémoire. On va faire une définition. Un type, c'est une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament. Pour être un type, ça vient de l'Ancien Testament. Personne, événement, chose. Il faut que ça ait, deuxième condition, il faut que ça ait une réalité historique. Il faut que tu puisses démontrer que historiquement, ces personnages-là ont existé et que Dieu s'en est servi dans un but précis. La troisième prérequis pour rencontrer une définition de type, c'est qu'il comporte une intention divine, celle de préfigurer. Le Seigneur prend un personnage, une chose ou un événement de l'Ancien Testament, et cette chose-là a pour but de préfigurer la venue future de Christ. Que Christ, il accomplit ce qui a été préfiguré, ce qui a été donné en symbole dans l'Ancien Testament. Christ vient toujours l'accomplir, le réaliser. Et autre chose que ça comprend, un type, c'est que ça comporte un élément prophétique. Aaron, si vous étudiez en détail le personnage, Melchisédek, si vous étudiez en détail le personnage, ça a un événement qui vient, qui est une prophétie, donc qui annonce quelque chose de futur, dans la personne de Jésus-Christ. Et ça s'accomplit, ces choses-là, toujours dans le Nouveau Testament, et ça vient toujours démontrer l'infinie supériorité de l'antitype sur le type. Voyez-vous, c'est comme dans l'Ancien Testament, c'est comme une ombre. Dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, la réalité. C'est un peu comme quand tu prends une photo de quelqu'un, tu n'emmènes pas l'ombrage chez vous, tu emmènes la personne. T'sais, l'ombrage, ça le dit, c'est un ombre. Alors, ces personnes-là, ces événements-là, ces choses-là étaient des ombres qui pointait vers quelque chose qui devait se réaliser prophétiquement dans le Nouveau Testament par l'accomplissement en Jésus-Christ. Et l'antitype, peu importe, quand vous voyez quelque chose, ça c'est un type de Jésus-Christ, l'antitype c'est toujours Jésus-Christ. Alors tous ces personnages-là, tous ces événements-là, toutes ces choses-là pointaient vers l'accomplissement futur dans la personne de Jésus-Christ. L'antitype c'est toujours Jésus-Christ. Alors, quand on parle du type, l'antitype, c'est l'ombre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de Jésus-Christ. Alors, on va donner quelques exemples rapidement. On n'a pas un cours sur ça ce matin, mais c'est important parce qu'on voit de quelle manière le Seigneur, dans Hébreux, se sert des types pour venir parler de l'accomplissement par son Fils en Jésus-Christ de certaines fonctions. Là, aujourd'hui, on est dans la typologie sur le côté sacrificature, mais il y a d'autres aspects. Là. Alors, on va prendre des personnages. Deux personnages qu'on peut dire avec certitude qu'ils sont des types, Aaron et Melchisédek. Il se sert de deux personnages. Il y a eu une réalité historique, Christ, qui avait une intention divine de préfigurer. Et tout ce que j'ai nommé, ça marche avec eux autres. Des événements maintenant. Est-ce qu'il y a des événements qui parlent dans l'Ancien Testament qui viennent parler de Jésus-Christ? Oui, la Pâque juive, dans Exode 10 ou 12, en tout cas dans ce coin-là, c'est que le Seigneur, quand il a fait la Pâque juive, c'était l'agneau pascal, le fameux agneau pascal. Il fallait que, en telle date et telle date, qu'il tue un agneau pascal. Vous souvenez-vous de Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait la Pâque juive. Il était en train de faire avec ses disciples ce qui avait été commandé dans l'Ancien Testament, mais il était à 3 jours de réaliser que lui serait l'agneau. Alors, ces choses-là, c'est comme, il y avait la Pâque juive, il y avait la fête de la Pentecôte, on ne rentrera pas dans les détails là-dedans, la fête des trompettes, la fête des tabernacles et le sabbat. Ça, c'est tous des événements qui sont des types, qui sont accomplis par l'antitype Jésus-Christ. Il y avait des choses aussi. Et c'est heureux parce que nous, on vient de faire une étude de 20 leçons sur le tabernacle. Tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, si vous vous en souvenez bien, pointait vers l'accomplissement futur dans la personne et par la personne de Jésus-Christ. Il y avait le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. Il y avait dans Lévitique l'offrande de l'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine, l'offrande des sacrifices de prospérité, l'offrande des sacrifices pour le péché, etc., etc. Alors, ce qui est important de souvenir dans les types, c'est quelque chose de l'Ancien Testament qui pointe vers l'accomplissement par l'antitype Jésus-Christ. Si on se souvient de ça, quand vous allez entendre le mot type, ça va allumer. Deuxième chose qu'on va regarder, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Donc, le premier point est réglé. Si les Juifs auraient dit, « Ben oui, mais souverain sacrificateur, ça ne marche pas ton affaire, là. Il était de la tribu de Juda, mais non, on ne peut pas prouver qu'il pouvait être un souverain sacrificateur. » Qu'est-ce qu'il vient corriger? Il vient dire, « Oui, mais son autorité, là, il ne se l'est pas attribué lui-même, comme ça dit dans les versets. C'est lui, Dieu lui-même qui lui a attribué. Il l'a fait avec serment pour dire que sa sacrificature serait pour toujours. » Maintenant, dans la partie, à partir du verset 7, aller jusqu'au verset 9, là on rentre dans une autre section qui n'est pas non plus nécessairement facile à comprendre. On va le relire, après ça on va donner une explication. Alors ça dit, dans le verset 7, c'est lui, Christ. C'est lui qui, dans les jours de sa chair. Alors, il faut bien comprendre et garder à l'esprit de tout ce qui est dit dans le passage, c'est Jésus lors de son séjour terrestre. On ne parle pas de la sacrificature de Christ céleste, parce que ça dit bien, c'est lui qui, dans les jours de sa chair. Donc, quand Christ s'est incarné dans une chair d'homme, ce qui parle ici, là, c'est de la partie qui était dans sa chair. Il faut le garder à l'esprit, parce que sans ça, on vient écarter. C'est-à-dire, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes les prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. De quelle mort il parle? Parce que la mort, est-ce qu'il l'a connu la mort, Jésus-Christ, la mort physique? Est-ce que Dieu l'a sauvé de la mort physique? Non. De quoi qu'il parle d'abord? Il parle d'autre chose. On va essayer de déterminer c'est quoi qu'il parle. Après ça, il dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. La piété, dans les Saintes Écritures, ça parle de crainte de Dieu. Christ avait la crainte de Dieu parce qu'il était l'homme-Dieu et il avait lui-même volontairement accepté de se soumettre à Dieu en toutes choses qui le concernaient. Soumettre absolument. Alors ici, on parle de Jésus-Christ homme. Parce que si on attribue des souffrances à Dieu, on est impatable. Après ça, dit bien qu'il fut fils. Bien qu'il fût fils, de quelle partie de la nature de Christ qu'il parle quand il parle de fils avec un F majuscule? Bien qu'il fût Dieu. Bien qu'il fût fils avec un F majuscule. Bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ça. J'avoue que c'est un passage un petit peu difficile à saisir. Puis ça a été un baume pour moi que de retourner dans les commentaires et de lire un peu plus. Des fois, là, un passage comme ça, trois versets, là, il y a 45 pages des fois dans certains livres pour expliquer ça. Alors, c'est pas nécessairement facile à expliquer. Mais il reste que on se doit de comprendre de qu'est-ce qu'on veut dire parce que quand Christ était dans sa chair, qu'il y a eu des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, là, c'est sûr qu'on peut se poser la question, quelle mort? Puisque la mort physique, il l'a connue. Il faut qu'on parle d'une autre sorte de mort. Puis qui a été exaucée. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Et dans le verset 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection... » Encore là, ça peut poser une difficulté. Il était l'homme-Dieu, il n'avait jamais péché, il était à la fois homme et Dieu. Comment pouvait-il être élevé à la perfection alors qu'il était déjà parfait? De quoi on parle? Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut méditer. La parole est jamais... Parfois, il y a des passages qui sont plus difficiles que d'autres, ça en est un. Et il faut étudier... Parce que si on ne l'étudie pas, on ne va pas voir ce que d'autres, beaucoup plus savants que nous dans le passé, ont cherché, ont donné des explications. Certains donnent des explications très intelligentes. Alors il faut, et qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Est-ce qu'ici on parle de l'obéissance, qu'on peut devenir réconcilié avec Dieu par notre obéissance. De quoi on parle? De quelle obéissance qu'on parle? Alors, c'est toutes ces questions-là qu'il faut répondre si on veut exposer ces trois versets-là, qui sont pas beaucoup de mots, mais assez difficiles des fois. Alors, pour bien comprendre les versets 7 à 9, nous devons de garder à l'esprit que l'exercice de cette partie de la sacrificature de Christ fut celle dans les jours de sa chair, donc terrestre. Souvenons-nous que l'office de souverain sacrificateur de l'Ancien Testament comportait trois aspects. Le premier, c'était le sacrifice, qui comportait lui-même deux sous-divisions. Il y avait le sacrifice pour le péché et pour les péchés, puis il y avait le sacrifice de bonne odeur. Pour que le sacrifice soit de bonne odeur, il fallait qu'il soit parfait. Le deuxième aspect, l'intercession. Est-ce que Christ a intercédé pour nous lorsqu'il est venu sur cette terre? Oui. Est-ce que Christ continue d'intercéder pour nous alors qu'il est dans le ciel? Oui. Alors, il faut faire la part ici des choses. Quand il parle d'intercession, de quelle intercession il parle? Il faut que ce soit celle sur la terre parce qu'il dit « lorsqu'il était dans sa chair ». Il faut se souvenir, parce que là, on sent ça. Et la troisième chose, le troisième aspect de l'office du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'était de bénir. Après qu'il sortait, il bénissait. Maintenant, le Fils de Dieu est au ciel et il continue de nous bénir. Donc, les trois aspects sont là. Il faut que les trois aspects soient là. Je pense que je vais arrêter aujourd'hui parce que on n'aura pas le temps de faire tout. On va le faire en deux parties. C'est très long et je ne veux pas manquer d'expliquer cette partie-là. 7 à 9, c'est très important, et 10 aussi. Et je m'aperçois qu'on n'aura pas vraiment le temps si on veut se rendre jusqu'au bout. Alors, on va le faire en deux leçons, pas plus grave que ça. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous avoir éclairés sur ce passage, sur le fait que Jésus-Christ, non seulement qu'on remplissait les prérequis de l'office de souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, mais qu'en quelque sorte, dans les cinq prérequis, non seulement il les rencontrait, ces prérequis, mais il les dépassait de façon infinie. Et Seigneur, on voit que dans ta parole, tu introduis un nouveau personnage, celui de Melchisédek, sans doute parce que tu veux nous enseigner un autre aspect de la sacrificature de Christ qui n'était pas complet avec le seul type d'Aaron. Alors, tu te devais d'introduire le deuxième. Et Seigneur, nous on te demande de continuer à nous garder l'intérêt, à faire en sorte qu'on veuille toujours développer notre goût d'étudier davantage. Alors, on sait que l'Épître aux Hébreux demande de l'étude, et c'est une épître riche, profonde. Et Seigneur, on te prie de faire en sorte qu'on aime vraiment étudier ta parole et qu'on continue de l'étudier pour mieux te connaître, mieux t'aimer dans tout ce que tu as fait pour nous. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.